Merci.
Merci, Danny. Alors, rebonjour. C'est un plaisir pour moi d'être de retour après un été un petit peu mouvementé avec la naissance de notre quatrième enfant, notre petite fille, Romy-Anne. Et congé de paternité, les vacances et tout ça, mais maintenant on est de retour et puis par la grâce de Dieu, par sa force, parce que c'est avec des enfants, des jeunes enfants, c'est pas tout le temps reposant des vacances, mais par la grâce de Dieu, on a eu du bon temps en famille, puis maintenant par la force, par sa force qu'il nous accorde, on veut continuer le ministère que le Seigneur nous a donné ici et puis continuer de vous servir, d'être là pour servir l'Église de l'espoir. Juste mentionner que c'est pas une erreur s'il n'y a pas eu encore le temps des offrandes. On a décidé de le garder pour après la prédication, étant donné que le chant que Claudia a choisi va très bien avec la prédication. On voulait pas voler le punch avant que vous ayez vu le film. Alors, on va mettre l'offrande à la fin, OK? J'inviterai à tourner avec moi dans Josué au chapitre 14, le livre de Josué, chapitre 14. Alors, le livre de Josué se trouve dans l'Ancien Testament, après les cinq livres de la loi, le sixième livre de la Bible, Josué. Josué 14. Et nous allons lire ensemble les versets 6 à 15. Josué 14, verset 6. On peut y lire, « Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. » Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. On va se couvrir dans un mot de prière. Oui, Seigneur, mon Dieu, on veut se placer devant toi. Après avoir chanté ces chants, après avoir dit, Seigneur, entends nos cœurs, après avoir déclaré envers toi notre amour, notre désir de te suivre, on veut maintenant s'arrêter, regarder à ta parole, entendre ce que toi, tu as à nous dire, entendre et voir dans la vie de Caleb, comment, Seigneur, nous, on peut appliquer ce passage dans nos vies et vivre pour toi et suivre pleinement la voie de l'Éternel, comme Caleb avait fait. Seigneur, on a besoin de ta grâce ce matin. Viens nous apaiser, premièrement, mon cœur, le cœur de mes auditeurs aussi. Que ton esprit fasse toute sa place, prenne toute la place dans notre cœur afin que nous puissions recevoir ta parole, comme elle doit être reçue, comme des enseignements dignes et bons, pour qu'on puisse lui t'obéir, Seigneur, et te rendre toute la gloire. Viens nous bénir ensemble dans l'étude de ta parole. Fais que ce temps passé avec toi puisse porter du fruit. Porter du fruit qui va honorer ton nom. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alors, on voit dans le passage de ce matin l'exemple d'un homme qui a été placé devant un grand défi. Un défi qui a paru pour plusieurs insurmontable. C'est l'histoire de Caleb. Certains d'entre vous le connaissez, peut-être d'autres le connaissent moins. Caleb était un des 12 espions. L'espion de la tribu de Juda qui avait été envoyé dans la terre promise pour explorer le pays juste avant que Dieu donne la terre promise au peuple d'Israël. Et pour bien comprendre le récit qu'on voit ici, merci Jonathan, et pour bien comprendre le récit qu'on voit ici dans ce texte-là, on veut se placer dans le contexte et voir exactement quel est l'historique de ce qui se passe ici. Parce que Caleb raconte des choses dans le passage et on veut mieux les comprendre. Premièrement, on va reculer un petit peu. Dieu avait fait des promesses à son peuple. Premièrement, au début de l'Ancien Testament, on voit au début de la Genèse, dans Genèse au chapitre 12, que Dieu s'était choisi un homme, Abraham. Dieu avait fait deux promesses à Abraham. Ces promesses-là, premièrement, c'était qu'il allait lui donner une descendance, une postérité, d'une postérité comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Et ensuite de ça, qu'il allait donner un pays à sa postérité. Ensuite de ça, Dieu a dit à Abraham qu'il allait faire de lui une grande nation à travers sa postérité et qu'ainsi, toutes les nations allaient être bénies en lui. Il promet à Abraham une descendance nombreuse et un pays dans lequel le peuple, sa descendance va pouvoir vivre. Au début du livre de Josué, on est environ 700 ans après cette promesse-là faite à Abraham. On voit que la promesse d'une descendance nombreuse s'est accomplie. Abraham a eu un fils qui s'appelait Isaac et ensuite de ça Jacob. Jacob a eu 12 fils et à travers les années, à travers les siècles, cette descendance-là est devenue nombreuse et Dieu a accompli sa promesse envers Abraham. Mais au début du livre de Josué, la deuxième promesse, celle d'un pays, n'est pas encore accomplie. Dieu l'avait annoncé d'avance. Son peuple, la descendance d'Abraham, allait vivre en Égypte pendant plusieurs années. Et ça a duré 400 ans. Après avoir été en Égypte pendant près de 400 ans sous l'esclavage des Égyptiens, Dieu va opérer des grands exploits pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage et finalement les conduire dans le fameux pays promis. Alors, à la sortie d'Égypte, le peuple de Dieu, la descendance d'Abraham, se retrouve dans le désert où Dieu va lui donner ses lois et ses commandements. Et Moïse prépare le peuple à entrer dans la terre promise. Mais juste avant d'entrer dans le pays de Canaan, le pays promis, le peuple d'Israël va envoyer 12 espions, un pour chaque tribu d'Israël. Et le travail, le but des espions, c'était d'aller explorer le pays avant d'entrer. Alors, Josué et Caleb sont deux de ces espions, de ces 12 espions-là, et vont faire l'exploration du pays et reviennent avec un rapport. Et comme on voit dans le texte de ce matin, le rapport de Josué et Caleb était un peu différent des 10 autres. En fait, le texte de ce matin nous raconte que la différence entre le rapport de Caleb et Josué et des 10 autres, quelle était cette différence-là? C'est que le rapport de Caleb et Josué était fait avec droiture de cœur. Le rapport de Caleb et les événements qui vont suivre dans sa vie montreront que Caleb est caractérisé par une foi en Dieu qui sera récompensé. Et ce matin, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va voir l'exemple de la vie de Caleb. Trois éléments de la foi qui sont utiles pour nous. Dans la vie de Caleb, trois éléments de la foi qui sont utiles pour nous. Premièrement, on va voir ce qui caractérise une foi inébranlable en l'Éternel. Deuxièmement, comment cette foi se manifeste dans la vie de celui qui croit et qui place sa foi en Dieu? Et finalement, quelle est la récompense qui accompagne celui qui place sa foi en l'Éternel? D'abord, on va regarder ce qui caractérisait la foi de Caleb, cette foi inébranlable. Et on voit ça, entre autres, dans le passage dans les versets 6 à 9. Caleb est pour nous un exemple de ce qu'est la foi inébranlable parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Lors de l'exploration du pays, 45 ans plus tôt, le rapport des espions faisait état d'un beau pays, de l'abondance, d'un endroit où coule le lait et le miel, un endroit où ce que le peuple va être béni de la part de Dieu. Mais il y a un problème. Le peuple qui l'habite, en fait, les peuples qui habitent ce pays-là sont puissants, sont fortifiés, c'est des géants. Évidemment, ce ne sera pas des peuples qui vont être faciles à tasser de là, comme on dit. À cause de ça, 10 des 12 espions vont faire un mauvais rapport. Ils vont décourager le peuple en faisant un rapport qui manque de foi, si je pourrais dire. Et on peut lire ce récit-là dans Nombre 13 et 14. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé, j'aimerais ça vous ramener dans ce contexte-là. Quel a été le rapport de Josué et Caleb et celui des espions dans Nombre 13? Et je vais lire à partir du verset 27. Et j'aimerais quand même que vous gardiez un doigt dans Josué, parce qu'on va y revenir. Mais dans Nombre 13, verset 27, on va aller revoir qu'est-ce qui s'est passé. Quels sont les événements que Caleb est en train de rappeler à Josué dans le chapitre 14 de Josué. Et finalement, tout ça se passe dans Nombre 13, verset 27. Et à partir du verset 27, on voit vraiment quel était le rapport des espions au retour de leur exploration. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. » Et puis, il avait ramassé des fruits, des raisins qui étaient gros comme des pamplemousses. C'était pas n'importe quoi, c'était l'abondance qui était là. « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. » Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » Et là, évidemment, Israël parle de lapider. Et Dieu dit, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Et là, Dieu a pour but de frapper le peuple. Moïse intervient. Et Dieu va juger le peuple d'Israël. Il va le condamner en raison de son manque de foi devant cette adversité. Qu'est-ce qui va arriver? Toute la génération qui était prête à entrer dans la terre promise va retourner dans le désert, errer pendant 40 ans jusqu'à ce qu'elle meure toute. Et finalement, Dieu va donner à la prochaine génération le pays promis et Dieu va bénir Josué et Caleb qui vont rester les seuls vivants parmi les hommes qui ont été voir, qui ont été explorer le pays. Et il va les bénir en leur faisant voir le pays. Donc, Dieu a béni la foi de Josué et Caleb. Et c'est ces événements-là que Caleb, tout ce qu'on vient de lire, que Caleb rappelle à Josué dans les versets 6 à 9 de Josué 14 et la promesse que Dieu lui avait faite. Dieu lui avait fait la promesse qu'il allait lui entrer dans le pays. Contrairement aux espions, Caleb avait eu confiance que Dieu donnerait le pays à son peuple malgré les obstacles et les embûches qu'il y avait devant eux. Il savait que Dieu les aiderait à vaincre ses ennemis puissants pour accomplir sa promesse. Dieu avait dit quelque chose. Dieu avait promis qu'il donnerait ce pays à son peuple et Caleb avait cru. Et maintenant qu'il est placé devant cet héritage promis, Caleb a une pleine confiance que Dieu va lui accorder ce qu'il lui a promis. Et par là, on voit ce que c'est la foi qui est inébranlable. Quelle est la foi inébranlable? C'est celle qui prend Dieu au mot, celle qui croit ce que Dieu dit, que ce que Dieu dit est vrai et que ce que Dieu promet, il l'accomplit. C'est là la foi en Dieu. On n'a jamais vu Dieu, mais Dieu a parlé. Et notre foi est basée sur la parole de Dieu, une pleine confiance dans ce que Dieu dit. Et tout Dieu s'est révélé dans sa parole. Il a dit que toutes les paroles qu'il disait allaient s'accomplir. On voit ça dans Ésaïe 55, verset 11, où Dieu parle en disant « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Il n'y a rien que Dieu a dit qui ne va pas s'accomplir. Et la foi inébranlable, c'est de croire de tout notre cœur que ce que Dieu dit va s'accomplir et de placer notre confiance en Dieu. Dieu avait prononcé des paroles à Abraham, il avait fait une promesse à Abraham, il a fait une promesse à Josué et Caleb et Dieu allait accomplir cette promesse-là et Dieu allait donner le pays à son peuple. Quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Une pleine confiance dans la parole de Dieu, dans la promesse que Dieu fait. C'est là la vraie foi, la foi qui est inébranlable. On vit dans un monde, dans une société qui remet en question l'existence de Dieu et la foi qu'on peut avoir dans les Écritures. Dans la société québécoise, l'idée d'avoir la foi en Dieu ou même dans la parole de Dieu est de plus en plus considérée comme étrange. De croire que Dieu existe après tout ce que la science a réussi à prouver, c'est absurde. De son côté, la crédibilité de la parole de Dieu est elle aussi remise en question. Si Dieu n'existe pas, et c'est le raisonnement des gens qu'on côtoie, si Dieu n'existe pas, pourquoi est-ce qu'on croirait que la Bible est la parole de Dieu? On entend souvent parfois des gens considérer dire que ce livre est dépassé. On peut l'interpréter comme on veut. Il faut en prendre ou en laisser. Et la crédibilité de la parole de Dieu est remise en question. Pourtant, lorsqu'on prend le temps, ne serait-ce qu'un peu de temps pour considérer ce qu'elle dit, il est possible de découvrir qu'elle n'est pas si désuète après tout. Pas aussi désuète qu'on pourrait le prétendre. Elle parle de réalité que nous vivons encore aujourd'hui en 2011 et qu'on peut clairement constater autour de nous. On peut réaliser aussi que finalement, son interprétation n'est pas aussi libre qu'on peut l'imaginer. Combien de témoignages j'ai entendu de gens qui remettent en question les Écritures, la Bible, quelle était vraiment la parole de Dieu et qui, en faisant une, ne serait-ce qu'une simple recherche sincère, ont découvert en elle la vérité, la foi en Dieu. Après tout, si la Bible prétend être la parole de Dieu, est-ce qu'elle ne mériterait pas quand même qu'on prenne un peu de temps pour la lire et l'étudier? pour voir si ce qu'elle dit est vraiment vrai. Peut-être que tu es dans une situation, toi. Tu as un point dans ta vie où la foi en Dieu, ça ne te dit rien. Dieu existe-tu? On ne sait pas. La parole de Dieu, dire que la Bible dire que c'est la parole de Dieu. Non, je ne serais pas prêt à admettre ça. Mais as-tu pris le temps de l'étudier, de regarder, de la lire? Peut-être que ta perspective pourrait changer. Pour nous, à l'Église de l'Espoir, jour après jour, semaine après semaine, on la lit, on veut la lire, on veut l'étudier, et on croit que la Bible contient toutes les paroles que Dieu a voulu communiquer aux hommes pour que nous puissions connaître le vrai bonheur et la foi en Jésus-Christ, la volonté de Dieu pour nos vies. Ce que Dieu veut pour nous, c'est notre bonheur et un bonheur qui dure éternellement. Et plusieurs d'entre nous, on peut témoigner que Dieu est fidèle à sa parole, que ce qu'on lit dans ce livre, c'est la vérité. On peut placer notre confiance dans ce que Dieu dit. Et on va voir ainsi combien Dieu peut bénir. Peut-être c'est le temps pour toi maintenant de prendre le temps de la considérer et de voir si ce qu'elle dit est vrai. Est-ce que ce qu'on voit, la foi du croyant, c'est une foi qui est inébranlable dans la parole de Dieu, de croire que ce que Dieu dit est vrai. La foi de Caleb était inébranlable parce qu'il avait une pleine confiance dans la parole de Dieu. Maintenant, plusieurs d'entre nous, on a cru à la parole de Dieu, on a cru à ce que Jésus est venu annoncer, la possibilité d'être réconcilié avec Dieu, le bonheur de la vie éternelle, on a placé notre confiance en Dieu et dans sa parole. Maintenant, qu'est-ce que ça change, ça, dans nos vies, de placer notre foi en Dieu? Qu'est-ce que la vie de Caleb nous montre que ça devrait changer? Comment cette foi inébranlable devrait-elle se manifester? Et c'est ce qu'on voit deuxièmement. Premièrement, on voit que la foi, c'est une pleine confiance dans la parole de Dieu. Maintenant, on voit que la foi se manifeste extérieurement par une pleine obéissance à Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans Josué 14, les versets 10 à 14. C'est ça qu'on voit dans la vie de Caleb. La foi, c'est pas seulement une confiance et une assurance qui se vit intérieurement dans le cœur. Oui, c'est important. C'est dans notre cœur, il faut le croire. Mais elle est aussi visible extérieurement par l'obéissance à Dieu dans toutes les circonstances de la vie. La foi, la vraie foi, c'est une foi qui se met à l'œuvre, qui passe à l'action et qui est démontrée par des actions. Encore une fois, ici dans le passage, on lit que Caleb a démontré sa foi en Dieu par des actions qui étaient visibles. Et ce n'était pas seulement parce que tout allait bien pour lui, pas parce que la vie était tranquille, là, il pouvait obéir à Dieu. Non, il était placé devant l'adversité, devant des situations difficiles, des épreuves qui n'étaient pas nécessairement faciles à surmonter. Mais même dans ce moment-là, Caleb garde la foi en Dieu et démontre sa foi par l'obéissance. Dans le passage, dans les versets 10 à 14, on lit ceci. Josué 14. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Et là, il raconte qu'il a vu des Anakim, des villes fortifiées, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit à la fin du verset 14? Dieu va bénir Caleb parce qu'il avait suivi pleinement la voie de l'Éternel, son Dieu. Caleb était prêt à obéir à l'Éternel, même devant l'adversité. Il y avait des Anakim. Et là, c'est pas faire référence à Star Wars ici. Mais c'est des hommes, un peuple qui était des géants. Et on pense que Goliath était probablement un des descendants des Anakim, des géants. Alors, c'était pas n'importe qui, c'était des géants, des gens avec des villes fortifiées. Et on a vu dans Nombre 13 que les espions s'étaient décrits devant eux comme des sauterelles. Alors, devant moi, si j'ai une sauterelle, elle est pas très grande. Elle est pas mal petite. Alors, si ils se voient comme des sauterelles, ça devait être des méchants colosses, comme on dit. Mais Caleb, devant les géants, devant cette montagne remplie de géants, de villes fortifiées, qu'est-ce qu'il est prêt à faire? À abandonner, à retourner de bord, et dire non, finalement. Qu'est-ce qui motive Caleb à aller sur cette montagne-là? Est-ce que c'est un projet farfelu, une vision qui lui est venue tout d'un coup? Dire, ouais, moi, ça me tenterait d'aller chercher cette montagne-là. Puis il part. Non. C'était basé sur la parole de Dieu, sur la promesse que Dieu avait faite. Caleb allait avec la foi, avec le courage. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu l'avait promis. Il savait que Dieu allait lui donner. C'était pas tout simplement un projet farfelu ou par orgueil, mais il savait que c'était la volonté de Dieu d'entrer dans le pays. Et puis, Dieu avait demandé à son peuple d'entrer, de chasser, et Dieu avait promis d'être avec son peuple. Et Caleb agissait par obéissance à la volonté de Dieu. Il savait que c'était la volonté de Dieu de prendre possession de ce pays-là. Il ne l'a pas fait sur un coup de tête, mais avec la pleine conviction qu'il marchait dans les voies du Seigneur. Et on le voit dans le passage, que les autres ont découragé le peuple, mais que lui a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Et c'était quoi la voie de l'Éternel? C'était d'y aller et de prendre la montagne avec une foi inébranlable placée en Dieu. Et il n'agissait pas par orgueil, il reconnaissait que Dieu était avec lui et que c'était seulement par sa force qu'il pouvait combattre. On voit que Caleb, Dieu lui avait fait une certaine grâce. Il dit qu'il est âgé de 85 ans et qu'il est vigoureux, aussi vigoureux que v'là 45 ans. Moi, j'ai juste 34 ans, puis je sais que je suis moins vigoureux, moins d'énergie, qu'on pourrait dire, que quand j'en avais 25. C'est sûr que le mariage et les livres que j'ai pris depuis ce temps-là, ça ne m'aide pas à avoir autant d'énergie qu'avant. Mais qui d'entre vous a déjà rencontré un homme de 85 ans et dire, moi, là, j'ai l'énergie, j'ai le courage que j'avais quand j'avais 40 ans, puis je vais y aller combattre, moi. Il y avait la grâce de Dieu qui avait accompagné Caleb dans tout ça. C'est pas un hasard. Je pense que Caleb avait la foi en Dieu, mais Dieu l'avait gardé aussi pour qu'il puisse voir la promesse. Et Dieu l'avait gardé. Il l'avait gardé pour qu'il puisse voir la promesse, justement. Et puis, il l'avait gardé avec la force dont il avait lorsqu'il était jeune. Mais Josué va pas là seul. Il s'en va pas, pas Josué, mais Caleb, il est allé avec Josué, mais Caleb et Josué, ils vont pas là seuls, ils vont avec la force que Dieu leur donne. Et c'est ce qu'on voit au verset, dans le passage, entre autres au verset 12 et 13, où il dit, « Il y a des villes grandes et fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Et ici, le « peut-être », c'est pas comme de douter que Dieu va être avec lui, mais plutôt l'espoir que Dieu va être avec lui. Si l'Éternel est avec moi, je vais les chasser. Et il place sa confiance en Dieu pour rentrer dans le pays. Si l'Éternel n'est pas avec lui, il ne l'aura pas. Si l'Éternel est avec lui, il va l'avoir. Alors, il place sa confiance en Dieu. Et son courage, sa foi, ce n'est pas de l'orgueil, mais un acte d'humilité et de soumission à Dieu. Dieu m'a demandé quelque chose et je vais me soumettre à lui, je vais y aller. Je vais lui obéir. Il démontre que sa foi, ce n'est pas seulement en parole, mais prête à passer à l'action. Parce qu'il croit que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Il sait que la victoire dépend de la présence de Dieu dans sa vie. De la même façon, Dieu nous demande de manifester notre foi en lui par notre obéissance. Caleb a obéi, a démontré sa foi par l'obéissance. Et de la même façon, Dieu demande à nous aussi que notre foi ne soit pas juste en parole, mais aussi en action. C'est pas tout de dire que j'ai la foi en Dieu. Ma foi doit être manifestée extérieurement par l'obéissance. Ma vie doit manifester clairement que ma foi est véritable. Dire que j'ai la foi en Dieu, c'est pas suffisant. Je dois le démontrer. Caleb, lui, l'a montré. Et si vous dites aux gens autour de vous, « Moi, j'ai la foi en Dieu », mais que quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous en prenez, vous en laissez, c'est quoi le témoignage? Qu'est-ce que les gens autour de vous vont dire? Vont-ils vraiment croire que vous avez la foi en Dieu? Peut-être que vous allez en décourager certains, peut-être même d'avoir la foi en Dieu, comme certains ont fait. Mais ce que Dieu demande, c'est une pleine obéissance à sa parole. Vivre entièrement comme il le demande. Si je dis que j'ai la foi en Dieu, je le démontre extérieurement par mon obéissance à Dieu. Es-tu prêt à suivre pleinement la volonté de Dieu pour ta vie? Ou voudrais-tu mettre quelques-unes des paroles de ce livre-là de côté pour te satisfaire? La foi véritable en Dieu se manifeste par une pleine obéissance à sa volonté. Si tu sais ce que Dieu te demande, parce que je pense que c'est assez clair, il nous l'a révélé, qu'est-ce qu'il nous demande? Si tu crois en Dieu, tu devrais lui obéir et accomplir, faire ce qu'il te demande. Mais alors que je suis en train de parler, je réalise très bien que moi-même, des fois, je ne fais pas toujours ce que Dieu me demande. On n'est pas parfait. Et puis, je veux de loin de moi l'idée de sembler légaliste ou quoi que ce soit. Mais la vraie foi, on le voit dans le passage, ça se manifeste par l'obéissance. Et même si des fois je tombe, je veux obéir de tout mon cœur au Seigneur. Ça arrive des fois que Dieu me montre clairement, dans mon cœur, un péché, mais que je décide de le laisser là un petit peu plus longtemps, faire un compromis avec Dieu. « Ah, mais tu sais, Seigneur, c'est pas si grave que ça, finalement. » Puis je continue. J'essaie de me justifier moi-même. J'ai déjà vu ça dans ma vie. Puis peut-être que vous pouvez vous identifier à ça aussi. Des fois, on essaie de justifier notre péché d'une certaine façon. Mais honnêtement, si tu te présentes devant Dieu maintenant, là, puis Dieu te demande « Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire là? » Vas-tu être capable de te justifier vraiment? Puis au point où Dieu va dire « Écoute, mon gars, je comprends. » C'est correct. Continue, pas de problème. Jamais, jamais Dieu va tolérer le péché. Et si Dieu te montre un péché dans ta vie, que tu as décidé de faire des compromis, d'essayer de te justifier pour continuer, Dieu te demande de le régler, puis il t'offre sa grâce pour être pardonné, pour avoir la force de marcher pour lui, pour avoir la force de lui obéir. Quand que je tombe, je sais que je peux trouver auprès de Dieu, auprès du Seigneur Jésus, mon pardon. Je dois courir au torrent de sa grâce pour recevoir son pardon, sa force, pour obéir en toutes circonstances, me repentir de mes péchés, de mon péché, le délaisser et de courir auprès de lui pour recevoir son pardon. La foi inébranlable, c'est une pleine confiance dans la parole de Dieu qui se manifeste extérieurement par l'obéissance. Par sa grâce et par sa force, c'est possible. Et ce qui apporte la joie et le bonheur dans ma vie et dans nos vies, c'est que Dieu récompense la foi inébranlable manifestée par l'obéissance. Dieu veut donner une récompense à ses enfants. Et il y a une récompense attachée à l'obéissance, la pleine obéissance à la parole de Dieu. On voit dans le passage que, en bout de ligne, on n'a pas tout le récit du combat. Si vous voulez lire qu'est-ce qui s'est passé avec les Anakim, allez voir un peu plus tôt dans Josué 11. Mais on a tout simplement les paroles que Josué a béni Caleb et qui lui a donné Hébron, qui est la montagne finalement qui parlait, et lui a donné pour héritage. Pourquoi? Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. Caleb a reçu l'héritage en raison de sa foi et de son obéissance. Caleb avait-il raison de croire en Dieu, de manifester sa foi en Dieu, d'être prêt à lui obéir devant l'adversité? Il avait raison. La conclusion du passage qu'on a vu nous montre qu'en raison de sa foi, Caleb a reçu ce qui lui était promis. Il avait donc entièrement raison de placer sa confiance en Dieu et de lui obéir en toutes choses. Maintenant, à partir de ce moment-là, la promesse faite à Abraham 700 ans plus tôt est pleinement accomplie, du moins pour les deux promesses, okay? De la descendance et d'un pays. Toutes les nations allaient être bénies en Abraham plus tard, et on va voir ça un petit peu plus loin. Par la grâce de Dieu, contrairement à ceux de ses générations, Caleb a eu la joie, le privilège de voir la promesse faite 700 ans plus tôt s'accomplir devant ses yeux. Voir que ce que Dieu avait dit s'est accompli. Tout ce passage-là nous montre un exemple de foi inébranlable manifesté par l'obéissance, une obéissance que Dieu a récompensée, a bénie en donnant un héritage et le repos à son peuple. Mais si on en reste là, juste à l'exemple de Caleb, on passera à côté de ce que ce passage veut réellement nous apprendre dans le contexte de tout le plan de Dieu, le plan rédempteur de Dieu. Ce passage ne nous parle pas seulement d'un exemple pour nous, mais il nous présente une image de ce qui allait venir plus tard dans la personne de Jésus-Christ. L'héritage promis et le repos accordé au peuple d'Israël, parce qu'on le voit à la fin du verset 15, le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Dieu a donné le repos à son peuple. Ce repos-là, au temps de Josué, pointe vers l'héritage et le repos éternel que Dieu veut nous donner en Jésus-Christ. Tout le livre de Josué nous parle d'une conquête, de la conquête de la terre promise. Et la conclusion du passage nous dit que le peuple a reçu l'héritage et que le pays fut en repos et sans guerre. Autrement dit, après avoir été délivré de l'esclavage en Égypte, Dieu leur a donné ce qui lui était promis à son peuple. Maintenant, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on peut voir que Dieu voulait aussi délivrer les hommes d'une autre forme d'esclavage. Il veut nous délivrer d'un esclavage spirituel, l'esclavage du péché. Voyez-vous, la Bible nous dit que tout être humain, sans exception, est retenu captif par le péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? La désobéissance à Dieu. Plus profondément, une rébellion contre Dieu qui est là dans notre cœur, par nature. Et cette rébellion contre Dieu fait en sorte qu'on cherche à plaire à nous-mêmes et non pas à plaire à Dieu. Et on est retenu captif par ce péché-là. Même si on voudrait bien, d'une certaine façon, obéir à Dieu, c'est impossible. On est retenu captif par le péché. Mais Dieu veut nous délivrer. Comme il a délivré les enfants d'Israël de l'esclavage, il veut nous délivrer de l'esclavage du péché. Il veut nous donner un héritage. Il veut faire de nous des gens heureux, des gens qui lui appartiennent, heureux de vivre pour sa gloire et qui obtiendront l'héritage de la vie éternelle. Et pour cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour que nous qui étions coupables devant Dieu, on puisse être rendus justes devant lui par le sacrifice que Jésus-Christ a offert. Jésus a subi à ma place ma condamnation, a porté sur lui mes péchés. Et on l'a célébré tantôt avec le repas du Seigneur. Jésus est venu pour recevoir la condamnation que je méritais. Et la Bible en parle, entre autres, dans Ésaïe 53, au verset 5, quand Ésaïe dit « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Maintenant, on peut avoir la foi en Jésus-Christ et dans le sacrifice qu'il a offert pour nous à la croix. Et on peut recevoir l'héritage de la vie éternelle, un héritage encore plus grand que celui qui avait été promis à Caleb. L'héritage que Dieu veut nous donner, il veut donner à son peuple. Il veut donner l'héritage de la vie éternelle et le repos dans sa présence pour l'éternité. Mais tout comme dans l'histoire d'Israël, ceux qui vont avoir part à l'héritage, ça va être ceux qui vont avoir placé leur foi en Dieu, une foi manifestée par l'obéissance, la vraie foi, une foi en Jésus-Christ. On rêve tous d'un monde meilleur. Et par tous les moyens, vous vous connaissez, vous essayez d'améliorer, on essaie tous d'améliorer notre sort dans ce monde-là, dans ce monde présent. Maintenant, Dieu nous offre, dans la vie à venir, un monde parfait, sans tristesse, ni souffrance, sans maladie, ni douleur. Il nous offre le repos pour l'éternité. Pour y avoir accès, on doit placer notre foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire croire que Jésus est le seul qui peut nous offrir la vie éternelle. Tout comme Caleb croyait que Dieu était le seul qui pouvait lui permettre d'entrer dans le pays promis, on doit croire que Jésus est le seul qui peut nous faire entrer dans l'héritage que Dieu prépare et dans le repos éternel. Si tu n'as jamais pris cette décision dans ta vie, de recevoir le pardon que Jésus-Christ a accompli pour toi à la croix, c'est maintenant le temps, avant qu'il soit trop tard, d'accepter le pardon et le repos que Dieu veut t'offrir. Jésus-Christ veut nous donner le repos pour la vie éternelle, mais pour nous qui avons cru en lui pour notre salut, ce repos, est-ce qu'on a besoin d'attendre la fin pour le vivre? Non, ce repos commence maintenant. Et peut-être que tu es ici ce matin, troublé par tout ce que la vie peut apporter, des inquiétudes, des souffrances, la maladie, les difficultés dans des relations, et c'est lourd à porter. Mais même au milieu de ces difficultés-là, au milieu de la détresse, aujourd'hui, en Jésus-Christ, on peut trouver le repos. Maintenant, le repos pour notre âme. J'invite à tourner avec moi dans Matthieu 11. Matthieu 11. Et on va terminer avec cela. Matthieu 11, versets 28 à 30. C'est des versets que, comme croyants, on connaît bien. Mais besoin de se rappeler parfois. Matthieu 11, 28. « Venez à moi. » Qu'est-ce que Jésus dit? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Qu'est-ce que Jésus promet ici? Verset 29. « Vous trouverez le repos pour vos âmes. Venez à moi. » Si tu es accablé présentement dans ta vie par des situations, des inquiétudes, quelle est la solution? Le monde nous offre toutes sortes de solutions pour s'en sortir. Jésus dit « Venez à moi. » Vous n'allez pas juste trouver le repos physique, vous allez trouver le repos pour votre âme. Reposez-vous en Jésus-Christ. Maintenant, ce que Jésus veut pour nous, c'est qu'on trouve en lui le vrai repos. Le repos qu'il avait accordé à Israël, c'était une image de ce repos qu'on peut trouver maintenant en Jésus-Christ, avec la foi et une pleine confiance en Dieu. Même au milieu des combats, des épreuves, on peut compter sur sa paix, sur son repos. Jésus a dit, « Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Et je peux... Le vivre régulièrement. Puis cette semaine, je le vivais un peu. Je ne prêche pas souvent. Et puis, pour ma préparation, j'étais inquiet, stressé un petit peu. Puis, j'essayais de mettre en pratique ça. Seigneur, c'est toi mon repos. C'est toi. Sans toi, je veux puiser ma force. Vous vivez toutes sortes de situations. Trouvez en lui votre repos. Le Seigneur Jésus promet de donner le repos pour notre âme. On trouve le repos pour notre âme en l'Éternel lorsqu'on place toute notre confiance en lui. Et puis, il peut arriver que parfois, notre foi a de la difficulté. On a de la difficulté à croire que Dieu peut vraiment m'aider à travers ça. Il y a un passage intéressant dans l'Évangile de Marc, on n'ira pas le voir, mais les paroles d'un homme dont le fils était possédé d'un démon. Jésus dit, cet homme-là va dire à Jésus, croyant que Jésus peut le délivrer, il dit, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Cet homme-là croyait que Jésus pouvait délivrer son fils du démon, mais même au milieu de cette foi en Dieu, pouvait vivre des difficultés et crie à Dieu, « Viens au secours de mon incrédulité. » Et si tu es au milieu de ce moment-là dans ta vie, tu crois en Dieu, mais tu as de la difficulté, ta foi défaille. Crie à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour croire en toi. C'est auprès de lui qu'on trouve le repos pour notre âme, lorsqu'on a cette certitude qu'il va tout accomplir pour nous, qu'il va nous bénir, parce qu'on lui obéit. Cherchons pas la paix intérieure et le repos de notre âme dans ce que le monde peut nous offrir. Jésus peut nous donner ce repos complet, le repos céleste. Allons à lui, plaçons notre pleine confiance en sa parole qui nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Croyons qu'il est là, présent dans nos vies, qu'il nous fortifie par son esprit et marchons avec lui chaque jour dans une obéissance complète à sa volonté. Dieu nous récompensera. On va trouver en lui le vrai repos. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour l'exemple de Caleb. Ce qui faisait que Caleb avait du courage et était prêt à affronter les combats, les épreuves qui étaient devant lui. C'était la promesse que tu lui avais faite, que tu étais avec lui et que tu allais chasser ces nations devant lui. Seigneur, à chaque jour, c'est un défi pour moi, puis une lutte sans cesse certainement pour mes frères et sœurs. ne pas prendre le contrôle, mais de tout te remettre. D'essayer de régler nos problèmes, nos inquiétudes, notre stress par divers moyens, plutôt que d'aller à toi. Seigneur, dans ta grâce, viens au secours de mon incrédulité. Viens m'aider, Seigneur, lorsque je vis les épreuves et lorsque ça va bien aussi, à placer ma foi en toi pour toute chose. Seigneur, tu me sondes, tu me connais, tu sais que je t'aime, tu sais que je veux avoir foi en toi. Aide-moi à trouver la paix en toi chaque jour. Fais de nous un peuple, des hommes et des femmes, qui vont être courageux, prêts à t'obéir en toutes choses, prêts à trouver notre repos en toi. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.